proche point, point de vision de, dans la vie de Jésus après sa résurrection. Ces trois épisodes se trouvent dans l'évangile de Jean. Il y en a aussi dans l'évangile de Luc qui rajoute parfois des détails intéressants. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur l'évangile de Jean. Et avant de lire ces passages en Jean 20 et Jean 21, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que la vie après la résurrection? La vie après la résurrection. C'est ce qui est écrit sur l'écran, c'est un peu sombre. Mais la vie après la résurrection, ou pour le dire autrement, quelles sont les conséquences de la résurrection de Jésus dans notre vie? Nous avons l'habitude d'utiliser la phrase « la vie après la mort ». Mais je vous pose la question, la vie après la résurrection de Jésus et notre résurrection, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La vie après la résurrection. Ou, pour le dire autrement, quelles sont les conséquences de la résurrection de Jésus dans notre vie, aujourd'hui et à l'avenir? Nous savons que la mort de Jésus a payé pour nos péchés. En tout cas, j'espère que vous le savez. Après tout ce que nous avons chanté aujourd'hui, ça devrait être évident. La mort de Jésus a payé pour nos péchés. Par sa mort, Jésus prend sur lui-même la punition qui nous était due. Mais qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à sa résurrection? Une conséquence de sa résurrection est que ça confirme ce qu'il a dit à son propre sujet tout au long de sa vie. Ça confirme qu'il est Dieu fait chair. Une autre, c'est que nous voyons la puissance de Dieu dans cet événement. Nous voyons la puissance de Dieu dans la résurrection de Jésus. Mais, au-delà de ces deux conséquences, la résurrection de Jésus a en fait un effet même plus direct sur notre vie. Et cet effet se voit dans plusieurs passages dans la Bible. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, et vu que j'ai déjà demandé que vous trouviez Jean, je vais mettre ce passage en 1 Corinthiens 15 sur l'écran. Vous ne soyez pas obligé de trop fouiller dans vos Bibles. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais à chacun, chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Le point pertinent ici, c'est le suivant. À travers Adam, la mort est venue, mais à travers Jésus, la résurrection est venue. Non pas juste sa résurrection, mais la résurrection dans le sens général. Jésus est le premier né d'entre les morts, pour reprendre la phrase de Colossiens 1, 18. Et ça veut dire qu'il y aura forcément, il y en aura d'autres. Dans les anciennes traductions, pour parler de cette idée, on met ici, dans ce passage, le mot « prémisse » pour « premier ».« Prémisse », c'est-à-dire les premiers fruits. La résurrection de Jésus est le premier fruit de sa victoire sur Satan à la croix. Et il va y en avoir d'autres. Et ça, c'est nous. C'est très important, cette idée de Jésus comme le premier-né, parce que nous sommes la suite. Sa résurrection entraîne notre résurrection. Parce que si nous sommes en lui, unis à Jésus par la foi, nous avons cette même résurrection en nous. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement, ma résurrection? En fait, ça signifie deux choses. D'abord, nous aurons le même type de résurrection corporelle que Jésus. Et deuxièmement, la résurrection de notre âme et de notre esprit commence maintenant. Deux points principaux. Commençons alors en parlant de la résurrection de notre corps. Parfois, on me pose des questions sur la vie après la mort. Vous avez peut-être des questions par rapport à la vie après la mort. Je ne sais pas tout, mais je sais ce que la Bible enseigne. L'une des questions qu'on me pose, c'est tout simplement, on sera comment? On ressemblera à quoi? Est-ce qu'on va se reconnaître? C'est une question brûlante. Est-ce qu'on va se reconnaître après la mort? La meilleure réponse que je peux donner, c'est d'aller voir la résurrection de Jésus. Parce que ce qu'il a expérimenté, nous allons expérimenter. C'est le principe de Jésus comme le premier. Nous allons avoir une résurrection comme la sienne. Au retour du Christ, nous serons ressuscités et vivrons à jamais. Et entre-temps, entre notre mort et son retour, notre âme et notre esprit seront avec lui. Mais à son retour, notre corps sera ressuscité et ce sera notre vraie vie éternelle, notre état permanent. Notre vie éternelle est une vie de résurrection. Et si nous voulons savoir ce que ça donnera, il suffit donc de regarder Jésus après sa résurrection. Il est les prémices et nous le suivons. Lisons donc en Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 11 à 18. On va commencer là. Verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté dans mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala allait annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Alors déjà, avant de lire les autres passages, nous pouvons voir ici un principe très, très important. C'est ce qu'on peut appeler le principe de la différence et la continuité, si vous voulez. Après sa résurrection, Jésus est différent. Nous ne savons pas exactement dans quel sens, parce que son apparence n'est pas décrite en détail, mais elle est suffisamment changée pour que Marie ne le reconnaisse pas. Au début. En même temps, dès qu'il prononce son nom pour la première fois, le nom de Marie, comme nous avons chanté, Jésus nous appelle par notre nom. Et dès que Jésus prononce son nom, Marie le reconnaît. Marie lui dit. Et Marie, elle répond. C'est un moment très touchant. Et certains d'autres disciples vont avoir la même expérience en Luc 24. Ceux-là échangent longuement avec lui sans le reconnaître. C'est peut-être à cause des histoires comme ça que certaines personnes me posent la question parfois. Est-ce qu'on va pouvoir se reconnaître au paradis? Va-t-on se connaître dans la vie après la mort? Parce que les disciples de Jésus ne le reconnaissent pas au début. Et il faut lire la suite du passage. Il faut toujours lire la suite du passage. Lorsque Jésus ouvre les yeux, ils le reconnaissent. C'est comme dans cette vie. Il faut que Jésus ouvre nos yeux pour que nous puissions le reconnaître. Sans son aide, nous ne sommes incapables. Mais dès qu'il prononce notre nom, nous le reconnaissons. Et ce sera pareil à l'avenir. Dieu n'envisage pas pour nous un avenir qui efface nos relations que nous avons eues sur cette terre. Au contraire, c'est l'amour qui est la chose la plus permanente qui soit. On sera changé. Nos relations seront restaurées. Mais on va se reconnaître chez ce Jésus ressuscité. Il y a des différences, mais il y a aussi de la continuité. C'est le sens du terme transformation, en fait. La transformation implique que quelque chose change, mais qu'il y a quand même quelque chose qui reste. C'est un principe très, très important dans la Bible, la transformation. Dieu nous transforme par son esprit, par exemple. Que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Romains 12, 2. On y revient tout à l'heure. Ici, nous voyons la transformation du cœur de Christ. Le même type de transformation que notre cœur va connaître. Dans le prochain passage, les deux aspects de cette transformation, la différence et la continuité, deviendront même plus clairs. Nous allons lire donc l'histoire de Thomas. Aussi une histoire très touchante. Ça commence au verset 24. Il vaut la peine de lire tout le chapitre à la maison. Je vous encourage. Mais ici, nous reprenons au verset 24. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » La paix soit avec vous. Puis, il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Que la paix soit avec vous. Et puis, Jésus agit pour que Thomas ait la paix. Il ne pense pas ses mots et puis fait rien. Jésus va maintenant faire ce qu'il faut pour que Thomas ait la paix. Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. On pourrait passer beaucoup de temps à méditer la compassion de Jésus envers Thomas. Mais aujourd'hui, notons surtout ce principe de différence et de continuité chez Jésus. Jésus est différent. Il passe par des portes fermées. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit ailleurs, en Luc par exemple. Le cœur de Jésus est changé si bien qu'il n'est plus soumis aux lois de la physique. Au moins, non pas comme nous le comprenons. Il est comme Néo dans le film de Matrix. Et dans son nouveau corps, il peut faire des choses que nous ne pouvons pas. Mais nous pourrons. Parce que nous aurons le même type de corps que lui. Et dans ce corps, nous habiterons la nouvelle création qui est décrite en Apocalypse 21. La création, comme nous, sera transformée. Ça aussi, c'est impliqué par la résurrection de Jésus. La création elle-même sera renouvelée par cette puissance. Elle sera différente, mais il y aura aussi de la continuité. Ce qui est bon restera. Et l'une des choses qui sont bonnes, c'est notre corps physique. Ici, dans ce passage, Thomas peut le toucher. Et dans le prochain passage, Jésus va même manger. Il mange aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 24. Nous allons lire, la passage en Luc. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. C'est Luc 24, 36 pour ceux qui le cherchent, mais vous pouvez aussi écouter si vous voulez. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. C'était tout un cheminement. Ils étaient dans la joie, mais ils avaient quand même du mal à croire. Alors, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Jésus mange et il se laisse toucher pour montrer qu'il n'est pas un simple esprit. Et là, juste une petite parenthèse. Il a un corps réel, mais une petite parenthèse par rapport à ça. Parfois, les gens modernes imaginent que les gens de l'époque de Jésus étaient un peu stupides. Nous sommes un peu snobs, des fois, par rapport aux gens de l'histoire. On imagine qu'ils étaient un peu stupides parce qu'ils n'avaient pas la science moderne. Et c'est pour ça qu'ils ont cru que Jésus était ressuscité. Ils étaient naïfs et crédules, et maintenant nous sommes plus avisés. Mais ce n'est pas le cas. Les gens de l'époque savaient bien que quand on meurt, le corps reste dans le tombeau. Il ne revient pas. C'est pour ça que même les disciples ont du mal à le croire. Parce que ce n'était pas normal. Et ils imaginent donc que Jésus, ce Jésus qu'ils voient, doit être un fantôme. C'était la seule solution évidente. Mais même là, ce n'était pas comme si c'était quelque chose de normal. Il n'y avait pas des fantômes qui apparaissaient partout. Ils avaient peur, comme quelqu'un de nos jours l'aurait. Ils n'étaient pas stupides. Il y avait quelque chose qui se passait qu'ils ne comprenaient pas. Ne croyez donc pas ces gens de nos jours qui disent que ce sont des fables que les gens ont cru parce qu'ils n'étaient pas avisés. Au contraire, ils étaient aussi étonnés que nous l'aurions été. Marie, Thomas et les autres, ils ont dû le voir pour le croire. Bénissons-nous qui le croyons sans l'avoir vu. Fin de parenthèse. Jésus est donc ressuscité corporellement, son visage, ses bras, ses mains, tout son corps, y compris ses cicatrices. Ces cicatrices, les signes de son sacrifice, les signes de son amour, et oui, les signes de sa souffrance. C'est frappant quand on y pense. La résurrection n'a pas totalement effacé les effets de la crucifixion. Parce que si la crucifixion a été un moment de souffrance, elle a aussi été un moment que Dieu avait utilisé puissamment. Et quand on pense aux implications de ce fait, ça peut être difficile à accepter peut-être. Parce que ça ouvre la possibilité que nous gardions certaines cicatrices nous-mêmes. Peut-être pas physique, peut-être émotionnel. Certains signes ou souvenirs de nos difficultés pendant cette vie. Cette idée peut être difficile à accepter parce que nous pouvons bien vouloir dire « Mais non, moi je veux un avenir où il n'y a aucune trace de ce que j'ai vécu sur cette terre. Et surtout, aucune trace de ce qui m'a fait mal. » Et c'est normal. Je comprends. Même juste sur le plan physique, nous ne voulons pas que notre corps garde ce que nous prenons pour ses imperfections. Moi, j'ai certaines choses que je laisserai avec plaisir. Les choses que nous n'aimons pas nous-mêmes. Mais soyons clairs, le corps de Jésus est parfait ici. Et notre corps sera parfait. C'est juste que selon la Bible, la gloire et la perfection ne viennent pas de l'oubli. Elles ne viennent pas de l'effacement de notre souffrance. Elles viennent de sa transformation. Vous voyez la différence? C'est une transformation qui a lieu à travers notre persévérance. Romains 5, versets 13 à 14. Nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Nous sommes fiers de nos détresses. La résurrection ne va pas effacer ce dont nous devons être fiers. Jésus a eu la victoire dans l'épreuve. Il a tenu ferme. Et ses cicatrices en sont les signes. Elles sont ses médailles de victoire. Et nous aussi, nos cicatrices seront les signes de notre victoire. Du combat que nous avons mené, du bon combat, espérons-nous. En fait, il faut savoir que c'est plutôt les religions païennes qui parlent d'un avenir où on ne se souvient plus de son passé, où on est absorbé dans l'univers. Vous connaissez ce mensonge. Où on est réincarné avec une nouvelle vie sans souvenir de ce qu'on en était avant. Et c'est pas la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est d'avoir une vie où on ne se souvient pas de son ancienne vie? C'est pas la vie éternelle, c'est juste une deuxième vie. Comment peut-on dire même qu'on est la même personne? La réincarnation n'a rien à voir avec la vision de Jésus. La vision que Jésus nous donne de notre avenir à travers sa résurrection. Un avenir parfait où même nos cicatrices feront partie de notre perfection. Un avenir où même nos cicatrices feront partie de notre perfection. Alors, si ça vous perturbe, et je sais que ça perturbe, ça peut, parce que j'en parle des fois avec des gens qui sont perturbés. Et donc, j'aimerais vous rassurer encore une fois, l'avenir que nous sommes promis est le bonheur parfait. Nous allons lire Apocalypse 21, les premiers versets. Apocalypse 21, verset 1. « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Je fais toutes choses nouvelles. Il ne dit pas « Je ne fais que de nouvelles choses. » Il dit « Je fais toutes choses nouvelles. » C'est-à-dire « Je les renouvelle. » Je les transforme. Cette nouvelle création sera un lieu de bonheur parfait. Et ces passages mis ensemble nous appelle à considérer la réalité d'un avenir où même nos souffrances terrestres et les cicatrices feront partie de notre gloire. C'est le principe biblique de la transformation. Alors, jusqu'ici, nous avons parlé de la transformation qui aura lieu à la fin des temps, au moment de la résurrection corporelle. avant de lire le dernier passage, parlons maintenant un peu de ce que ça signifie pour nous déjà maintenant. Parce que ça a des implications pour nous maintenant. La résurrection de notre âme. Lorsque nous mettons notre foi en Christ, nous sommes unis à lui par son esprit. Sa vie entre déjà en nous. Nous avons la vie de la résurrection déjà en nous. Et c'est pour ça que la Bible parle de ce moment où nous recevons son esprit comme une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance. Et donc, si la résurrection de Jésus entraîne la nôtre, ça veut dire en fait que cette résurrection a déjà commencé en nous. D'abord par notre esprit et notre âme, et à son retour par notre corps. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu est appelé un avant-goût de notre avenir. Parce que nous avons déjà en nous un avant-goût de notre résurrection. Parce que notre âme et notre esprit est déjà ressuscité. C'est un avant-goût de notre avenir. En nous, la puissance de la résurrection a commencé déjà à jaillir, non pas juste dans notre vie, mais dans le monde. Vous en rendez compte? La puissance de la résurrection dans ce monde existe parce que vous êtes là. Et vous êtes ressuscité. La réalité de cet avenir dont nous venons de lire en Apocalypse 21, elle a commencé à pousser en nous déjà, comme les premières fleurs qui poussent dans la neige, qui annoncent la fin de l'hiver. J'ai eu des jonquilles dans mon jardin, il n'y a pas longtemps, qui étaient couvertes de la neige. Nous sommes comme ces fleurs qui poussent dans la neige, parce que nous avons la vie de résurrection en nous déjà. Et cette vie n'est pas juste pour nous, c'est pour les autres. Ce qui veut dire que notre passé aussi peut déjà commencer à être transformé en gloire. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais lorsqu'on met sa foi en Christ, Dieu nous donne une nouvelle vie en lui, mais il fait part en effaçant notre passé. Il y en a qui sont déçus par ça. Il nous donne une nouvelle vie, non pas en effaçant notre passé, mais en le transformant, en nous guérissant. Aucune de ces 6 personnes qui ont été baptisées dimanche dernier n'a oublié son passé. Au contraire, pour certains, leur cheminement avec Christ a fait qu'ils ont dû remémorer certaines choses difficiles. Non pas pour être blessé encore et encore et encore, mais pour être pleinement guéri. Pour que ces souffrances soient remises entièrement et finalement entre les mains du Christ, entre ses mains qui portent toujours leurs propres cicatrices. Vous en rendez compte, nous parlons beaucoup des mains de Jésus. Nous remettons les choses entre les mains de Dieu. Quand vous priez, je remets ces choses entre les mains de Dieu, vous voyez des mains avec des cicatrices? J'espère, c'est ce que vous voyez dans votre esprit. Et donc, vous qui souffrez aujourd'hui, peut-être toujours d'une blessure qui vous a été faite il y a beaucoup d'années, sachez que Jésus connaît votre douleur et la main qui tend vers vous a connu sa propre agonie. C'est pour ça que ses mains peuvent faire des miracles merveilleux. Les mains de Jésus sont capables de créer de choses belles à partir de choses brisées, parce qu'elles étaient brisées elles-mêmes. Son Père l'a fait pour lui et il peut le faire pour toi. La vie de la résurrection peut déjà transformer le mal de notre passé. Mais ce n'est pas tout non plus. Elle peut aussi prendre ce qui était bien en nous et le rendre tellement mieux. Quand on devient chrétien, la puissance de la résurrection en nous n'efface pas notre personnalité. Il la transforme. Encore ce principe de la transformation. Romains 12 nous dit d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence, non pas par sa suppression. Si tu étais, par exemple, quelqu'un d'introverti avant de croire en Jésus, Probablement, tu le serais après. Mais maintenant, l'Esprit va te donner, va te montrer comment utiliser la force de cette façon d'être pour sa gloire. Et il va aussi te donner la force de surmonter tes propres tendances quand il faut. Et c'est pareil pour d'autres aspects de notre personnalité. Dieu nous a créés. Il ne cherche pas à effacer ce qu'il a créé. Il cherche à le renouveler par la puissance de sa résurrection. Les apôtres, surtout Pierre et Paul, vous connaissez les vies, la vie de Paul et la vie de Pierre. Ce sont de bons exemples. Ils sont très différents l'un de l'autre. Mais si vous lisez leur histoire, vous voyez que leur cheminement avec Dieu, par leur cheminement avec Dieu, Dieu les transforme chacun, mais chacun reste bien lui-même après. Pierre reste audacieux, mais l'Esprit va transformer cette audace irréfléchie en courage pour sa mission aux Juifs. Paul, il reste très intellectuel, mais l'Esprit va transformer sa connaissance humaine en sagesse divine pour sa mission aux Grecs. Dieu te connaît depuis ta naissance, depuis avant ta naissance, depuis toute éternité. Il aime ce qu'il a créé. Maintenant, il faut simplement le restaurer complètement. L'appel de Dieu n'est pas que tu t'effaces, c'est que tu sois transformé par son esprit. Et donc, pour terminer, lisons le dernier passage. Chapitre 21, verset 4. Les disciples sont dans une barque toute la nuit en train de pêcher. Verset 4. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Donc, c'était les disciples. Jésus n'était pas avec eux. Mais le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils se jetèrent donc et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon Pierre remit son vêtement et sa ceinture car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Vous voyez, Pierre est toujours Pierre. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Donc il a déjà ses poissons, mais ils invitent quand même les disciples à amener les leurs. C'est aussi intéressant. Simon Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Ici, c'est la deuxième fois que Jésus aide ses disciples à avoir une pêche miraculeuse. Vous connaissez la première? La première fois a été quand Jésus a appelé Pierre et Jean et les autres à le suivre pour la première fois. Au début des évangiles. Et avec Jésus, on peut être sûr que ce n'est pas un hasard qu'il y ait ces deux pêches miraculeuses au début de son ministère et à la fin. C'est comme si Jésus leur dit ici, maintenant mes amis, c'est un nouveau départ. Vous vous souvenez la première fois où j'ai fait ça pour vous? C'était le début de mon ministère, c'était le début de notre vie ensemble. Maintenant, c'est le début de votre ministère. La vie qui est en moi est désormais en toi, pour que la puissance de ma résurrection jaillisse dans ce monde comme elle a fait pendant toute ma vie, après cette première fois où je suis venu vers vous. C'est ce que Jésus va dire à Pierre explicitement dans les prochains versets. On ne va pas prendre le temps pour le lire, mais vous connaissez l'histoire. Jésus va parler avec Pierre de son reniement. Il va montrer que maintenant, c'est un nouveau départ. Et il va lui donner l'appel à prendre soin de ses brebis, à continuer sa mission. La résurrection implique la possibilité d'un nouveau départ pour nous tous. Mais notons bien ce que Jésus fait pour signaler ce nouveau départ. Je vais terminer avec ça. Jésus, pour signaler ce nouveau départ, il mange avec ses disciples. C'est un repas simple et joyeux. Jésus est le Christ ressuscité, le roi de l'univers transformé en gloire. Et nous le trouvons pour la dernière fois ici, sur le rivage, en train de manger du poisson et du pain avec ses amis. Nous avons déjà dit que Jésus mange pour montrer qu'il n'est pas un esprit, qu'il est réellement ressuscité, comme nous le serons. Mais je pense qu'ici, il mange aussi tout simplement parce que c'est ce qu'on fait avec ses amis quand la vie est bonne. Dans toutes les cultures du monde, pour passer du temps avec ses amis, on fait quoi? On mange. C'est le signe de notre humanité partagée. C'est le signe de la générosité. C'est le signe de l'amitié. Et ici, Jésus nous montre qu'après la résurrection, toutes ces choses restent importantes. La résurrection ne change pas ça. Parce que la résurrection garde toute bonne chose et la transforme en gloire. Au retour du Christ, il y aura un grand festin, une énorme fête pour célébrer le roi de l'univers. La Bible en parle, Apocalypse en parle, les évangiles en parlent, un grand festin, une fête. Mais en voyant ce que Jésus fait ici avec ses disciples, j'ose imaginer qu'après ce festin, à la fin des temps, tôt ou tard, il y aura aussi le temps pour manger un repas simple avec ses amis. Un repas avec vous tous. J'imagine. Un repas avec vous. Où nous nous souviendrons des repas fraternels que nous avons partagés ensemble après les cultes dans les différents hôtels de Bussy. Un repas simple avec Jésus lui-même. Comme il a fait avec ses disciples. Ce Jésus qui aura toujours ses cicatrices et qui va connaître les nôtres et les vôtres parce que nous aurons déjà cheminé longuement ensemble. Nous n'aurons pas oublié notre passé, mais nous serons en paix quand même car notre passé sera transformé en gloire. C'est ça la puissance de la résurrection. Si vous n'avez pas cette paix, si vous n'avez pas cette puissance, je vous invite à parler avec quelqu'un, lire votre Bible, venez me voir. Mais ne laisse pas cette puissance de côté. Il suffit de l'accepter et d'accepter celui qui est mort et ressuscité pour toi.